Il est midi 6, nous allons maintenant revenir sur ce week-end historique d'un point de vue footballistique avec le journaliste sportif et collaborateur ici sur Radio Alpha, Eric Mendes. Salut Eric.
Salut Didier, bonjour à tous.
Eh bien, quel week-end Eric.
Oui, quel week-end.
Comment le décrire?
Fatigant. Non, magnifique, unique, inoubliable, il y a trop mémorable. Incroyable, exceptionnel, enfin, il y a trop de qualificatifs, surtout quand on était du bon côté.
Eh ben, c'est ça. Et pour rappel, le Paris Saint-Germain a remporté pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. C'était ce week-end, donc, face à l'Inter de Milan. 5-0. Jamais une finale n'avait vu autant de buts marqués d'un côté. C'était une finale à sens unique.
Alors, on peut le dire. Forcément, quand on voit le 5-0 à la fin, jamais on aurait cru, hein. On aurait pensé vraiment que l'Inter soit un peu plus, convaincant et un peu plus compliqué à gérer, mais de voir que finalement ça s'est goupillé du début jusqu'à la fin dans le sens du Paris Saint-Germain, c'est incroyable. C'est pour ça que surtout quand on connaît l'histoire du Paris Saint-Germain, par quoi ce club est passé, les scénarios justement de fou qu'il a connu, mais dans le mauvais sens, justement les traumatismes, hein. Il a vraiment connu des traumatismes, hein. En l'occurrence notamment la célèbre remontada de Barcelone,
bien sûr.
Mais et de voir que finalement l'aboutissement de tout projet de club qui se veut grand européen avec la Ligue des Champions se termine par miner encore un 5-0. Et même encore, tu vois, même en parlant comme ça, d'un coup, je me dis, mais finalement, non, c'est logique, parce que ce club est tellement illogique dans tout ce qu'il propose au niveau émotion, et ça, on peut en parler aux supporters, mais pas seulement les récents, hein. Et justement, de se dire qu'en fin de compte, on arrive en finale, tu bats la finale à Munich, dans un endroit exceptionnel, là où presque où le Bayern a été le plus à pointé du toit, a été le plus assassin pour être contre le QSI et le Qatar, à son arrivée, de se dire que tu gagnes là-bas à Munich. Et en plus tu mets 5-0 pour rentrer directement dans l'histoire, hein, parce qu'il y avait ça aussi, à jamais les premiers de Marseille, et tu bascules encore plus dans l'histoire en disant bon, nous on n'est jamais les premiers à avoir mis 5-0 en finale, donc c'est incroyable, c'est exceptionnel.
Oui, et puis cette victoire a été presque écrite dans les étoiles. Raconte-nous, il y avait tout un tas de statistiques qui allaient dans le sens d'une victoire du PSG.
Ouais, on se rattache forcément quand on suit comme ça et qu'on a envie d'y croire. Hein, on se rattache à de la symbolique. Et moi, je sais que dans le foot, des fois, il y a toujours des petits signes du destin comme ça qui réapparaissent, qui te disent ouais, attention, ça peut être pour vous. Et c'est vrai que déjà le fait de se dire que Munich, à chaque fois qu'il y a eu une finale, il y en avait eu 4 avant, c'était toujours un vainqueur inédit. Donc il y avait eu Nottingham dans début des années 80, il y avait eu Marseille en 93, hein. Mm-hmm. Et il y avait eu le Borussia Dortmund de Paulo Sousa en 97, lui qui avait gagné la Ligue des Champions avec la Juve et qui a battu la Juve à Munich. Et donc il y avait aussi Chelsea qui avait battu le Bayern pour la première d'Abrahamovic en 2012. Donc il y avait comme ça déjà, c'est-à-dire qu'il y a ces 4 finales, 4 vainqueurs inédits, et ben maintenant il y en a 5 vainqueurs inédits. Donc et après il y a plein d'autres choses. Quand on se dit on joue l'Inter, quand à l'époque il y avait Marseille qui affrontait Milan AC, donc maintenant c'est deux clubs rivaux de chacun qui s'affrontent. Mm-hmm. Et en fin de compte on voit que c'est pareil, on voit encore que la statistique aussi est valable pour se dire que les clubs italiens ne gagnent pas à Munich, puisque la Juve avait perdu contre Dortmund, puisque maintenant le Milan AC est perdu contre Marseille, et jamais 203, l'Inter a perdu à Munich aussi, donc les 3 Italiens perdent à chaque fois qu'ils jouent une finale à Munich. Il y avait aussi le fait d'avoir un attaquant français à chaque fois. Il y avait Jean-Pierre Papin au Milan AC, en face, dans le camp d'en face. Et là, il y avait Marcus Thuram dans le camp d'en face. Et en plus, qui a été très bon d'ailleurs, presque l'un des meilleurs interistes de ce samedi. Et encore, voilà, peut-être que j'en oublie encore, mais il y a eu tellement. Le fait des étrangers, voilà, entraîneurs étrangers, sur le banc touche à Marseille, c'était Raymond Götze, le Belge. Là, c'était Luis Enrique, l'Espagnol. Et en face, il y avait toujours des Italiens. Sur le banc de touche de l'Inter aux Milan AC, avec Fabio Capello et puis donc Simone Inzaghi. Donc, touche. Il y a plein de petits détails comme ça, des petits trucs qui te disent « Ah ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. » Et autre statistique, et ça, j'y pensais samedi, à chaque fois que la France gagne une finale de Coupe d'Europe, il y a toujours un défenseur qui marque. Il y avait Basile Boli pour Marseille en 93, il y avait Bruno Ngoti pour le PSG en 96, et là, il y avait Achraf Hakimi pour le Paris Saint-Germain, donc en 2025.
Cette victoire était écrite dans les étoiles, cette victoire du PSG en Ligue des Champions. Comment expliquer le niveau de l'Inter Milan ? Qui a été un niveau très 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 faible.
Mais je pense que tout le monde a été surpris, parce qu'on parlait beaucoup de ça, de l'expérience qu'il faut avoir pour gagner la Ligue des Champions, pour aborder les grands événements, d'autant plus que l'Inter, il y a 2 ans de cela, ils y étaient au final, ils ont perdu 1-0 contre Manchester City. Mais de le voir justement, toute cette équipe-là, presque parce que ouais, ils nous font 6, parce que mis à part une tête de Marcus Thuram en première période à 2-0, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donnarumma, il n'a pas eu de, à se déployer. Et tout le monde pensait que la jeunesse allait être broyée justement par la pression ou quoi. Et enfin, compte, non. Non. Mais quand on y repense en même temps sur la semaine, il y a des choses comme ça aussi. On a vu, en gros, l'Inter, ils sont quasiment mentalisés. Ils étaient trop focus justement sur cette finale.
Oui.
Et ils ont presque même un peu, c'est triste à dire, presque abandonné un peu le championnat en faisant tourner régulièrement sur les dernières journées, alors qu'ils auraient pu accrocher le Scudetto en cas de défaillance de Naples, bon, même si Naples n'a pas failli, mais bah, en gros, ils avaient lancé des petits messages pour dire, en gros, ouais, nous, focus sur la Ligue des Champions. OK. Mais en même temps aussi dans une préparation bunkerisée, vraiment à l'écart. Et je pense que ça n'a pas été une bonne solution, parce que là, ça me ramène à des paroles de Bernard Tapie, en l'occurrence en 93, qui avait dit que lui, en 91, bah, il avait bunkerisé Marseille, il avait fait en sorte que les joueurs ne voient pas les familles, rien, et ils avaient perdu à Paris la Ligue des Champions, et que pourtant, pour Munich, il avait ouvert les vannes, et c'est les familles étaient avec les joueurs, en gros, ils pensaient à autre chose. Et quand je vois de la préparation du Paris Saint-Germain, mais c'était dans ce style-là, quand on voyait Donnarumma à Roland-Garros, même Dembélé qui faisait le tirage au sort, il y a des gens, ils disaient, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va pas préparer sa finale? Mais en fin de compte, non, le fait de se déconnecter, de se dire, en fin de compte, c'est un match comme un autre, eh ben, ça joue. Je pense que ça joue, et ça l'a montré, et puis en fin de compte, le fait d'aborder ce match-là, ben, comme si c'était un match, presque anodin, alors que c'est pas un match anodin, ben, ça aide dans l'état d'esprit, ou au moins de se dire, on se met pas le chape de plomb dès le départ.
Et ce n'était pas du tout un match anodin, c'était un match historique, et le PSG est allé remporter sa première Ligue des Champions à Munich, qui est le stade du club qui l'avait empêché de réaliser ce rêve déjà en 2020.
Bah, tu vois, ça c'est un autre symbole, tu vois. C'est-à-dire qu'en 2020, à Lisbonne, bah, c'est le Bayern de Munich qui t'empêche de voir finalement le PSG galactique avec Neymar, avec Mbappé, avec Di Maria, avec les grandes stars, Thiago Silva, de pas avoir cette concrétisation là, parce qu'il y a aussi ça, c'est que te dire que des fois t'as des clubs comme Chelsea, c'est pareil, quand à un moment donné ils avaient toutes les stars, mm-hmm. Par contre le fait d'avoir toutes les stars, ça ne fait pas forcément gagner, et Paris, c'est peut-être l'année où on s'y attendait le moins, se dire que il y a le départ d'Mbappé, c'est autre symbole, se dire que ta grande star qui part, comme Jean-Pierre Papin était la star de Marseille, et il était parti juste avant de voir Marseille vaincre le Milan et devenir champion d'Europe, et ben c'est pareil, c'est encore ça se rajoute, tu vois, les symboles, ils sont là, ils font des clignotants, ils disent attention, tranquille, il n'y a pas de problème. Et même le parcours, il est exceptionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Paris était éliminé de cette Ligue des Champions. Ils étaient au-delà de la 24e place, même pas prévu pour les playoffs. Et en fin de compte, ils ont dû batailler contre City, Stuttgart, pour accrocher une 15e place qui leur a après offert un parcours d'exception, d'anthologie, et que même les plus grands ne pourront pas remettre en question, parce que là, à moins qu'on me prouve qu'il y ait des mal-états ou des faits anodins, là, ça va être dur de me dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans le sens du Paris Saint-Germain et dans le sens du football, quoi.
Oui, effectivement, le PSG a mérité sa victoire à la fin de la compétition, parce qu'il a éliminé presque tous les clubs anglais.
Ouais, mais on voit, de toute façon, l'approche, c'est pour ça que je regarde aussi même la presse étrangère. Autant la première ligue, ils ont été sous le charme, ils ont parlé sport, ils ont parlé du fait que l'équipe, elle joue superbement et qu'il y a vraiment. Tactiquement, Luis Enrique, il a fait un gros travail, que le collectif, mais c'est ça, c'est la mérite du collectif. Il y a déjà les pics. En Espagne, tu vois tout de suite, ils sortent les chiffres. En gros, de tout ce qu'a dépensé QSI depuis le début de son histoire, plus de 2 milliards d'euros, des trucs comme ça. Enfin, tu vois tout de suite le prisme par lequel certains vont aborder cette victoire en disant, ouais, mais ils ont payé, donc c'est normal qu'ils gagnent. Mais non, quand on voit, ok, oui, Paris, forcément, a de l'argent. Ok, on va pas se mentir, il y a le Qatar qui est derrière. Ok, ça peut aider forcément pour construire une équipe, mais de là à se dire, quand je vois les débats qu'il y a eu ces derniers temps, est-ce que ça va vraiment un club français ou quoi, mais faut arrêter.
Et puis, mine de rien, le PSG soulève la coupe aux grandes oreilles avec l'un de ses effectifs les moins chers de ces dernières années.
Là, même sur cette finale, tu vois, même sur le symbole qu'il y a eu, on va dire que le révélateur, la star de cette finale, c'est qui? C'est un jeune, c'est Doué, déjà
Doué. Tu nous parles de Doué, bien sûr,
déjà
qui a marqué
Doué,
son doublé.
Personne ne s'attendait à le voir à un tel niveau, et en fin de compte, lui, il arrive dans cette machine-là, à broyer, puis qu'il y en a à broyer plus d'un, et lui, il explose, et tu sens que là, enfin, j'en suis même à un point de me dire que ça se trouve, même en équipe de France, vas-y, donne-lui les clés, quoi. Parce que là, lui, en gros, ça va être la pièce maîtresse du collectif, et même Mbappé, il doit être presque au service de dire, ouais, ben, donne-moi les ballons, moi, je les mettrai au fond, mais c'est toi qui gères toute la création. Mais bon, ça, c'est une autre parenthèse. Mais après, je vois aussi, ouais, comme tu as dit, au bout du scénario, le 5-0, t'as un Titi parisien, un jeune, donc la formation, qui est aussi à la fête. Mm-hmm. Et puis, non, il y a trop. Et puis, je dis, t'as deux défenseurs. Baratskilia, qui est arrivé il y a 6 mois, qui rentre là-dedans, comme s'il était là depuis 10 ans.
Baratskilia, il a tout donné pour son maillot, hein. Il y a une course, il fait la moitié du terrain pour aller récupérer justement la balle dans les pieds de Thuram. Elle est exceptionnelle cette course.
Mais c'est une vraie publicité pour le foot, je le dis, parce que même quand on voit le travail fait pour Dembélé, parce que certains ils vont commencer à dire, ouais, mais Dembélé, il a pas été, si, il a été décisif. Mais ça, c'est comme Giroud, il a été décisif à la Coupe du Monde en 2018, et que j'en ai marre qu'on me dise qu'il a rien fait parce qu'il a pas marqué de but. Il a été prépondérant, il a pesé sur les défenses, et Dembélé, c'est pareil, c'est le premier harceleur à empêcher les relances, ça a été le premier à se déchirer, à se défoncer, à faire des retours défensifs. Sur les phases offensives, bah, il fait la phase décisive sur le but de le premier, le deuxième, et le premier de Désiré Doué, sur la petite talonnade, sur Vitinha, exceptionnel, où ensuite Vitinha, il peut aller donner encore à Désiré Doué pour le 3-0. Il est là, Dembélé, donc il est dans les phases de construction. Après, ok, il a pas marqué. Mais justement, moi j'en ai marre qu'on voit le prisme des statistiques pour parler des performances individuelles aussi, et de se dire voilà l'importance qu'il peut avoir. Et Dembélé, il a été tout aussi important que ses coéquipiers ce samedi à Munich.
Mais alors Dembélé, Ballon d'Or ?
Mais pour moi oui, pour tout ce qu'il a montré sur l'ensemble de la compétition, même si on a vendu, mais il s'est réveillé quand... Non, il s'est pas réveillé en première partie de saison, il a eu les occasions, ok, il les a pas mis au fond, mais il était dans les phases de construction. Si Barcola il a marqué, c'est parce que Dembélé était là aussi pour lui donner le ballon. Donc dire qu'en gros il a pas été là, c'est faux. Faut justement, le foot c'est pas que le but, c'est pas que je veux bien qu'on mette, on peut mettre 30 buts ou plus pour être Bantodor, mais ça prouve pas tout. Et moi pour moi, je donne plus de crédit à gagner des titres avec ses équipes et n'en déplaise à certains, parce que en France on a rendu, et en Espagne, enfin surtout en France, on a bien couvert le soulier d'or avec les Mbappé. Mais c'est normal qu'il gagne les buts, il les mettait autant avec Paris, mais seulement que comme le coefficient. Mais bon, ça c'est des trucs tactiques, enfin c'est technique on va dire. Avec les quotas au niveau des championnats, mais ouais, pour moi il a été important parce qu'il a été c'est lui qui a impulsé des fois justement, ou là où t'aurais pu avoir ces moments de doute, c'est lui qui a contribué en mettant les buts décisifs, en étant exceptionnel, en faisant la différence. Dès qu'il prenait le ballon, tu sentais de toute façon que le défenseur il reculait d'un mètre parce qu'il avait peur de se dire même faire quoi, que si ça passe bah je suis mal. Donc non, il a été méga important et ça serait quand même une belle prime au collectif, parce que tu peux pas couronner une équipe, mais tu peux couronner un joueur grâce à l'aspect collectif.
Et alors nos quatre Portugais sur le terrain, Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et João Neves, quel bilan alors de leur saison ?
Exceptionnel. Quand on voit bah, Vitinha, Laura qu'il a pris, devenu taille patron sur le troisième but, regardez-le, mais depuis le départ, il est dans son camp, il joue
il
le ballon,
partout, hein.
Et après il amène le ballon, il joue avec Dembélé, il lui fait la talonnade, il refait une couche intérieure, mais c'est exceptionnel, c'était du grand Vitinha, João Neves, Oumioud, Cheg à Paris, mais qui est exceptionnel. Et certains l'ont découvert, parce que ça m'amène encore au mois d'octobre, après le match du PSV, quand j'entendais un agent de joueur sur une chaîne de télé grand public qui parle de sport et dire que ce milieu de terrain-là, il ira jamais loin en Ligue des Champions. Ils sont trop petits, ils sont trop frêles, ils sont pas assez costauds. J'entendais, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es un agent de joueur, mais tu connais même pas Jean-Neige, rien que Jean-Neige. Mais c'est les petits teigneux, c'est les gars que t'as pas envie de croiser sur un terrain, parce que même s'il est tout petit, mais elle a un pas qui te fait mal, il est tout le temps là sur ton dos, même si tu penses l'avoir passé, non, il revient tout de suite te chercher, et ça, c'est quelqu'un qui soi-disant se dit professionnel, te parle comme ça des joueurs, tu te dis, mais t'as pas le droit, faut pas être un grand cadre d'1m90 pour être un bon milieu de terrain, tu peux être tout petit. Et ça, c'est parce que je dis pas ça parce que je suis petit, mais je suis tout petit et très exceptionnel, donc c'est pour ça. Mais Nuno Mendes aussi, qui a été au bout de l'effort.
Oui.
Tu sentais que physiquement, il était, voilà, mais il a été au bout. Et Gonçalo Ramos, pareil, toujours dans le process collectif, dès qu'il est rentré. Il aurait peut-être mieux avoir une balle ou deux buts, mais bon, après, bon, ça s'est joué à pas grand chose, mais tant mieux, il a participé à la fête et c'est exceptionnel. Et un grand, j'ai envie de mettre aussi un cinquième portugais, c'est Luís Campos.
Bien sûr.
L'architecte, lui c'était voilà, il a posé les plans, il a amené la matière première à Luis Enrique, mais voilà, c'était beau de tout ce qu'il a fait, et c'est le couronnement de son travail aussi.
Et c'est les trois grands clubs portugais d'ailleurs qui sont représentés dans le PSG, Benfica, Porto et Sporting.
Pas de jaloux,
puisque Vitinha vient du Porto, Gonçalo Ramos et João Neves du Benfica et Nuno Mendes du Sporting.
Exactement, donc non, mais ça aussi à mettre au crédit de l'école portugaise, la formation portugaise qui est encore exceptionnelle. C'est pour ça Roberto Martinez, il a quand même aussi beaucoup de matières premières à mettre en valeur, et il a intérêt à faire les bons choix, parce qu'à un moment donné, on voit encore Rodrigo Moura qui est en train de, peut-être, on parle beaucoup de lui aussi à Paris, tu vois, la jeune révélation du FC Porto. Donc qu'on ne peut pas se dire que le Portugal aussi mérite aussi d'être encore plus fort, et grâce aussi à l'apport de ces joueurs-là. Et c'est pour ça, donc, quand on a déjà, t'as déjà ton milieu de terrain, tu prends un joueur Neves et Vitinha, tu les mets, tu sais, ok, tu peux voyager. Mais Gonçalo Ramos, qui est intraitable aussi devant, et Nuno Mendes, non, même si, j'espère qu'il va pouvoir jouer cette semaine, parce que bon, j'imagine que s'il a poussé un peu dans la machine, ça peut être compliqué, mais bon, ça en croise les doigts. Mais voilà, c'est exceptionnel ce qu'ils nous ont fait, et merci beaucoup. Obrigado, senhor. Et vivons la suite. Hein.
Merci beaucoup, Eric Mendes, pour toutes ces précisions concernant ce week-end historique.
Ben, merci à toi, et obrigado, Paris Saint-Germain. Et...
Grand abraço, Eric.
Abraço, Didier.
Il est 12h30, merci d'être branché à Radio Alpha, la radio lusophone en France. On continue cette heure spéciale PSG. Nous sommes maintenant en relation avec Robin. Salut Robin.
Salut à tous.
Un supporter, un vrai de vrai, un ultra, un amoureux du PSG depuis de nombreuses années, n'est-ce pas Robin?
Exactement, à peu près depuis 2007, je dirais environ.
Ah bah oui, mais comment tout a commencé justement, raconte-nous.
Eh ben, ça a commencé avec mes parents. En fait, ils m'avaient emmené voir, alors, mes parents sont originaires de Normandie, donc de Caen. Ils m'avaient emmené voir un fameux PSG Caen en 2007. Et j'étais tombé amoureux, en fait, de base des tribunes, parce que moi, je suis un mec passionné par les tribunes en France depuis toujours. Et quand je suis arrivé voir ce match PSG Caen, je me suis dit, ok, ça, c'est le club qui me correspond, c'est le club qui me fera vibrer toute ma vie, quoi.
Et 13 ans plus tard, il t'a particulièrement fait vibrer.
Ah là, je pense qu'on on touche le Graal, on touche le summum. Je pense qu'on peut le dire, on fera jamais mieux. Ça y est.
Raconte-nous ce week-end historique, il est exceptionnel pour toi ce week-end.
Ouais, c'était un week-end, je pense que c'est même plus qu'un week-end, c'est quasiment un mois, parce que ça fait un mois qu'on y pense tous les jours. Mm-hmm. Franchement, depuis Liverpool, on y pense tous les jours, on se dit que c'est peut-être la bonne année, avec un peu de réserve hein, quand même, parce qu'on sait que ce PSG-là, il peut nous faire vibrer dans les deux sens. Mais ce week-end, ouais, très 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 émotif, des scènes qu'on n'avait jamais vues, du périph jusqu'au stade, c'était mais une folie de tous les instants, quoi. C'est du jamais vu et je pense qu'on n'est pas prêt de revivre un week-end comme celui-là.
Bah alors attends, parce que toi en plus t'étais au Parc des Princes les deux soirs, donc le samedi soir pour voir le match et hier soir avec la coupe aux grandes oreilles et les joueurs.
Tout à fait, ouais, exactement. Bah un parc comme on n'a jamais vu, quoi, c'est-à-dire. Autant on peut dire des fois le parc est un peu embourgeoisé, autant samedi on avait un parc de légende, quoi. 48.
On a perdu la liaison. Robin, est-ce que tu nous entends? Ah, on a perdu la liaison avec Robin. Alors on va improviser, c'est tout à fait bien. On va lancer justement ici un chant, le chant des supporters du PSG. On va retrouver la liaison avec Robin. Tu l'as beaucoup chanté ce chant, Robin.
C'est le chant ultime. C'est le chant qui vraiment réunit tout le monde, celui-là. C'est magnifique.
Eh bien alors attends, j'ai appris en plus qu'il est plutôt récent, il serait né en 2016, ce chant, c'est ça?
Ouais, c'est un chant, c'est un chant assez récent, ouais. Tout à fait.
Oui, c'est un chant en fait qui serait né depuis le retour des ultras dans le virage Auteuil du parc. Pendant longtemps, ils ont été interdits. Alors à leur retour en 2016, quand ils ont été autorisés à revenir dans le Parc des Princes, ils sont arrivés avec ce chant, tous ensemble, on chantera du PSG.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on pourrait appeler un chant de nouvelle génération, quoi.
Exactement. Alors tu nous racontais ton week-end au parc. Ouais, le parc, tu ne l'avais jamais vu comme ça.
Ouais, on l'a jamais vu comme ça. Moi, j'ai un ami qui est abonné depuis 2004, hein, qui a malheureusement pas pu aller à Munich d'ailleurs, et qui nous a dit, ouais, on n'a jamais vu ça, quoi. 1-0, 2-0, 3-0, tu vibres, et à un moment, tu commences à regarder autour de toi, tu te poses, tu vois tout le monde qui pleure, des femmes, des enfants, des jeunes, des moins jeunes. C'est des images qui restent gravées toute ma vie, quoi.
Oui, mais surtout que le PSG a souvent fait pleurer dans le mauvais sens du terme.
Exactement, mais ça justement c'est une belle image parce qu'on l'a pas oublié hier au parc lors de la célébration. On a montré les belles images, ils ont remontré un petit peu aussi les images qui nous ont fait souffrir. Mmh. Et il faut passer par là, je pense qu'il fallait passer par là. Ça nous a permis de comprendre des choses, des choses notamment sportives. Et aujourd'hui, ça paye, quoi. Il fallait passer par là. C'est oublié.
Et alors hier, oui, Robin, vas-y.
C'est pas tout à fait oublié, parce que forcément, on n'oubliera jamais tout ce qu'on a subi pour passer par ici, entre guillemets, mais c'était nécessaire, enfin comme ça.
Et alors hier, justement, dans l'hommage au Parc des Princes, les spectateurs ont pu voir des images d'anciens joueurs du PSG qui ont aussi fait ce club et qui ont participé d'une certaine façon à la victoire du PSG ce week-end. Mais il n'y a pas eu d'image, par exemple, de Messi ou de Mbappé. Quel avis t'as sur la question, toi ?
Bah, je pense que là, c'était évident qu'il fallait honorer les anciens, hein, premièrement. Et après, de toute façon, les Messi et Mbappé, c'était bien trop risqué de les convier à quoi que ce soit. C'était, pour le coup, pas du tout leur coupe, à mon sens. Voilà, je pense que ce serait mettre un petit peu, quelque part, de l'huile sur le feu pour pas grand-chose. Donc, ils n'auraient pas forcément leur place dans les célébrations, je dirais.
Tu dirais que le PSG a gardé une certaine rancœur vis-à-vis de Kylian ?
Non, je pense pas que... Après, c'est difficile de dire ça, on sait ce qui se passe en ce moment, les trucs juridiques et compagnie. Moi, sincèrement, je remercie Kylian pour tout ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain. Maintenant, voilà, il est parti, on a gagné, c'est comme ça. Et voilà, je pense que c'était mieux d'honorer les gens qui ont fait aussi le bonheur du club, comme tu l'as dit. Je pense que c'était important et eux avaient leur place vraiment pour le coup, sans aucun doute.
Et alors le PSG qui pendant toutes ces années a tant investi, le Qatar donc qui est arrivé en 2011 si je ne me trompe pas au Paris Saint-Germain, qui a tant investi, finalement ils ont remporté la Ligue des Champions avec l'une des équipes, l'un des effectifs les moins chers.
Ouais c'est ça, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Je pense qu'ils ont complètement, on va dire, foiré la stratégie pendant un certain moment. Hein. Mm-hmm. On a parlé d'une équipe qui courait je ne sais plus combien de kilomètres de plus, c'est vrai que ça a énormément fait la différence. Je pense que tout le monde sera d'accord quand on voit un Kvaratskhelia, un Dembélé, un Désiré Doué faire un pressing de tous les instants. Oui, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir trois mecs devant qui ne courent pas et qui sont portés que sur l'offensive. Donc je pense que voilà, la stratégie a été mauvaise pendant très longtemps. On nous a souvent reproché à certains de demander le départ de certains joueurs comme des Neymar. J'étais assez d'accord avec ça. Mm-hmm. C'était dur de s'imaginer se séparer des stars qui faisaient aussi un petit peu rêver le Paris Saint-Germain, mais la réalité c'est que sportivement c'était un échec et qu'on avait besoin d'autre chose, de trouver une force collective, parce que le foot c'est un sport collectif et c'est ce qu'on a trouvé avec ces gamins qui sont complètement morts de faim.
Oui c'est ça, c'est un collectif qu'on a vu naître au PSG cette année.
Ouais c'est ça, c'est l'empreinte Luis Enrique, hein. Je pense que quand il arrive on se dit que ça peut être intéressant, on est aussi inquiet parce que c'est un style de football quand même assez particulier, des fois peut-être un peu ennuyeux. Mais en fait, pas du tout. Il a mis en place un truc absolument phénoménal qui fait aujourd'hui une équipe les meilleures en Europe et de façon unanime. Je pense que la presse a été impressionnée toute l'année par ce qu'on a proposé. Même moi, je n'en revenais pas. Et pourtant, en début de saison, on se disait ça va encore être long parce que ça a démarré très timidement. Puis après, il y a eu des petits ajustements qui ont été faits, notamment des recrues, et ça a apporté ses fruits, quoi. Et franchement, le résultat, il est grandiose.
Et alors, qui sont tes chouchous au sein du PSG ?
Eh, c'est très dur là, c'est une question...
on les aime tous.
C'est une question, ouais, et c'est justement ça la force, et quand on en parlait hier, on se disait, mais on les aime tous, il n'y en a pas un, je dirais presque, il n'y en a pas un qui est moins bon que l'autre, quoi. Ils ont tous participé à leur façon, après, c'est vrai que là, s'il fallait vraiment répondre à la question, on peut se mettre un petit chouchou Désiré Doué, parce qu'il fait un match de fou à 19 ans, totalement insouciant, c'est exceptionnel ce qu'il arrive à nous faire en finale avec des champions à cet âge-là, quoi.
Lamine Yamal français, quoi.
Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que bon, moi je suis pas très comparaison, mais effectivement, c'est un peu ça, ouais.
C'est la pépite qui arrive à mettre un doublé quand même en finale de Ligue des Champions. Certains commentateurs disent même que le prochain Ballon d'Or français, ce sera Désiré Doué.
Bah, pourquoi pas. C'est vrai que pour l'instant, c'est dur de dire le contraire, hein. Pour l'instant, mais une carrière, c'est très long. C'est très, très, très long. Donc, on espère qu'il va confirmer. Je pense que, justement, cette insouciance, c'est quand même impressionnant. Et c'est ce qui me permet de dire que, ouais, effectivement, c'est un avenir tracé. Très probablement, après un Ballon d'Or, il va y avoir du monde. Il y a de la concurrence.
Eh ben, justement, en parlant de Ballon d'Or, Dembélé Ballon d'Or, selon toi ou pas?
Ouais, je pense que, pour moi, mon top 3, Dembélé, Lamine Yamal. Et en troisième, je veux saluer Achraf Hakimi, qui nous sort une saison mais de fou.
Qui a marqué le premier but hier.
Voilà, exactement, qui marque aussi contre Arsenal en demi-finale. On a du mal à récompenser les défenseurs, mais là, pour le coup, je pense qu'il fait une saison, personne ne dira le contraire, absolument extraordinaire. Donc ça ferait plaisir de récompenser un défenseur. Voilà. Donc, Dembélé, je pense qu'il le mériterait aussi. Après, bah, les récompenses individuelles, hein, c'est toujours difficile. On verra aussi, le Barça aura un candidat, ce sera Yamal. Au PSG, on aura peut-être plusieurs candidats et on pourrait revivre ce qu'a vécu le Real avec Vinicius.
Absolument.
Avec une déception à l'arrivée.
Merci beaucoup, Robin, de nous avoir partagé ton point de vue sur ce week-end historique. Toi qui étais au Parc des Princes pour voir le match samedi soir, toi qui étais au Parc des Princes pour voir les joueurs et la coupe aux grandes oreilles le dimanche. Ce week-end historique, tu l'as partagé avec nous sur Radio Alpha. Je te remercie beaucoup, Robin.
Avec grand plaisir.
Et on va se quitter avec, avec cet hymne que tu connais si bien.
L'hymne, ouais, je pense que je le connais pas mal. Ouais.
L'hymne du PSG. Alors j'essaye de le lancer, il ne va pas se lancer, tu vois, comme quoi parfois. Et on y est, c'est bon. Robin, on se quitte avec l'hymne du PSG. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir, bonne journée.
Paris Saint-Germain est devenu champion d'Europe ce week-end à Munich en battant 5-0 l'Inter Milan, sa première coupe aux grandes oreilles, de la victoire à la parade sur les Champs-Élysées jusqu'à la célébration au Parc des Princes en passant par une visite à l'Élysée et le discours d'Emmanuel Macron. Mathieu, racontez-nous ce week-end étoilé et exceptionnel.
Chers auditeurs, vous n'avez pas rêvé, Paris est champion d'Europe. Le capitaine parisien l'a rêvé pendant 12 ans, il en a versé des larmes, il en a craché ses poumons, il a souffert pour soulever le plus beau trophée du monde.
On écoute Marquinhos.
Comme d'habitude, hein, champion mon frère. Ce champion mon frère, on l'attendait beaucoup.
Mathieu, peut-être avant de commencer, racontez-nous l'avant-match, quelles étaient les attentes, quelles étaient les craintes, vous vouliez commencer par le perdant là.
Et oui, le meilleur en dernier. D'abord, je tiens à dire que les deux équipes qui se sont affrontées le 31 mai ont eu un parcours en Ligue des Champions fantastique. Je vais commencer par l'Inter. Sur la phase dite de championnat, le club bleu et noir, c'est 6 victoires, 1 nul et 1 défaite. C'est surtout un but encaissé, soit la meilleure défense du tournoi. Et c'est surtout une 4e place significative d'une qualification directe en 8e de finale. Après avoir passé tranquillement Feyenoord, les Interistes se sont confrontés aux Bavarois, les favoris lors de ce quart. Et puis, l'avant-dernière marche. Contre la meilleure équipe de la Ligue des Champions à ce moment-là, le FC Barcelone, riche d'une équipe très forte offensivement, favori également. Une victoire 7-6 au bout des deux matchs, une victoire sur le fil, mais teintée d'une confiance, d'un calme et d'une expérience que les Blaugrana n'avaient pas. L'Inter se retrouve en finale 2 ans après l'avoir été lors de la saison 2022-2023. L'équipe avait perdu contre Manchester City 1-0. Avant la finale, l'équipe n'est pas la favorite des bookmakers, mais elle suscite la crainte tant l'équipe a montré sa force tout au long de la compétition.
Et maintenant, le meilleur pour la fin, le PSG.
L'équipe rouge et bleue n'a pas à rougir non plus avant la rencontre en finale, mais cela n'a pas toujours été le cas lors de la phase dite de championnat. Le Paris Saint-Germain doute et perd. Après 4 journées, Paris est 25e avec 25 points et est techniquement éliminé. Mais l'équipe de Luis Enrique se redresse contre Salzbourg 3-0. Une remontada contre Manchester City 4-2 donne à l'équipe un souffle qu'elle n'avait pas su trouver avant. Une force intérieure qui s'est révélée à ce moment-là. Il était temps, vous me direz.
Paris finit donc 15e en 16e de finale, une phase finale qui sourit ensuite aux Parisiens.
Contre Brest, on s'y attendait, c'est une humiliation 10-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et puis le haut du panier en 8e, impossible d'aller chercher la meilleure équipe du tournoi. Liverpool, riche d'un effectif solide, d'une tactique de pressing tout terrain et d'une attaque très efficace, eh bien non. Dans la plus belle des compétitions, rien n'est impossible. Paris gagne au pénalty à l'extérieur. En quart de finale, c'est un autre club anglais qui vient faire barrage, Aston Villa. Résultat 5-4, mais Paris n'est pas passé loin d'une remontée de l'adversaire. Au match retour, une vilaine habitude, mais c'est là que se forge une équipe. L'avant-dernière marche, un autre club anglais, mais c'est cette fois-ci Arsenal, tombeur du 15 fois vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid. Résultat, 3-1, Paris est de nouveau en finale, 5 ans après sa dernière, tombé par le Bayern Munich. Paris est, selon les bookmakers, favori, mais tous les suiveurs de football connaissent l'équipe, elle peut défaillir.
Et alors, a-t-elle défailli ?
Eh bien, Didier, vous n'avez pas vu la finale. Étiez-vous ailleurs ? Étiez-vous occupé ? Sur l'ensemble de la rencontre, Paris n'a jamais défailli. Elle ne s'est jamais affaiblie. Même les sauts de concentration habituels de cette jeune équipe ne sont pas venus entraver la victoire. Dès le début de la rencontre, Paris presse, se concentre, ne se précipite pas, fait les bons choix, ne tremble pas. 12e minute, but d'Hakimi, le plus infatigable des défenseurs latéraux et dans la forme de sa vie. Paris fait ce qu'elle sait faire de mieux, mettre un ou deux buts dans les 20 premières minutes. L'Inter est asphyxié, perdu dans le bleu des 10 joueurs de champ. À la 63e minute, doublé de Désiré Doué. 10 minutes plus tard, c'est au tour d'un géorgien venu au mercato d'hiver du sud de l'Italie, Kvaratskhelia. Luis Enrique exulte enfin. Et puis, clou du spectacle, l'entraîneur parisien fait entrer le titi parisien de 19 ans, Seni Mayulu. Ce dernier s'infiltre dans la surface interiste et tire un boulet de canon dans les filets du gardien Sommer. Langue tirée et les yeux écartés de joie et de folie victorieuse, quelle soirée! La Manita en finale de Ligue des Champions, aucun autre club ne l'avait fait auparavant.
Et alors, que retenez-vous de cette finale, Mathieu?
Alors déjà, c'est le score, 5-0. Quelle victoire! Personne dans le monde ne pouvait l'imaginer, tant les supporters parisiens que les suiveurs habitués aux défaites acides. Je retiens surtout Luis Enrique, l'entraîneur espagnol a bâti un groupe, une équipe, et je vais même aller plus loin, une famille. La confiance de cette équipe est impressionnante. Cette sérénité lors des moments de possession où chaque joueur permute, remplace l'autre, fait les efforts. Nous avons vu à Ousmane Dembélé dans les starting blocks à chaque 6 mètres de Sommer, à répéter les courses, à être décisif sur chaque ballon offensif. Cette incroyable talonnade pour Vitinha au moment du doublé de Désiré Doué, franchement, pas de mots. Et je glisse ça ici, mais Ousmane Dembélé, ballon d'or.
Vous vouliez aussi nous parler de ce jeune joueur, Désiré Doué.
Mais quel joueur ce Doué, d'un petit jeune de Rennes au potentiel énorme, mais qui restait sur ses acquis, sur ses dribbles, et qui était perdu dans la tactique de Luis Enrique. Qui pouvait penser qu'il allait mettre un doublé et délivrer une passe décisive en finale de Ligue des Champions. J'en ai aussi un peu parlé, mais la paire Vitinha et João Neves, oh là là, mais quel milieu! L'un est un maestro et l'autre est un mort de faim, capable de se trouver et de communiquer les yeux fermés. Mais je pense surtout à un joueur, un homme que l'on a affiché comme l'icône de la défaite, comme le maître des sensibilités, comme le chef de la peur, l'immense capitaine Marquinhos. Je ne m'y trompe pas lorsque je dis que tous les supporters ont laissé une larme couler sur leurs joues et que tous les supporters ont eu la joie pour ce défenseur parisien. Tu as bien fait d'attendre, Marquinhos. Écoutez-le quelques minutes après le coup de sifflet final au micro de nos confrères de Canal+.
Je vous aime. J'ai plus de force. J'ai tout donné. Je voulais trop ça. On a souffert. Ça fait 12 ans. On voulait trop ça. Elle est dure, elle est très difficile. Et ça montre la valeur de ce club, de l'envie qu'ils ont. Sans vous les gars, regardez tous ceux qui sont là, ceux qui sont en Pâques, ceux qui sont partout dans le monde, merci beaucoup. Votre énergie vous a donné ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai plus de force. Je tiens juste à vous remercier, je vous aime.
Je me suis laissé entendre dire que les joueurs du Paris Saint-Germain n'avaient pas beaucoup dormi. Ils ont décollé pour Paris très vite.
Feu d'artifice, confetti et la coupe aux grandes oreilles à Munich soulevée par toute l'équipe dans tous les écrans du monde. Les supporters célèbrent la victoire dans les bars, dans la rue et même au Parc des Princes, occupés pour l'occasion pour accueillir les supporters qui ne pouvaient pas se rendre en Allemagne. Je le crois aussi, il n'y a pas que les joueurs qui ont écourté leur nuit. Tous les supporters sont restés éveillés ce soir du 31 mai.
Et place à la fête au lendemain de la victoire. Qu'est-ce qui avait été prévu hier à Paris?
Préparé en cas de victoire, en accord avec la préfecture et la mairie de Paris, les joueurs étaient attendus à 17h sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, pour célébrer la victoire. Mais juste avant leur arrivée, tous les joueurs ont posé devant l'avion et derrière la coupe pour une photo iconique sur le chemin de la parade. Les joueurs, assis dans le bus du club sur lequel était affiché champion d'Europe, sont escortés par la police, mais également par des supporters en motard. Une scène surréaliste. Et que dire de la parade? Un Marquinhos que l'on n'avait jamais vu aussi heureux, tenant la coupe à bout de bras devant le public, le staff, Luis Enrique et les joueurs, écharpes et médailles de la victoire autour du cou, une centaine de drapeaux du club secoués à l'unisson par le public. We are the champions, de Queen repris en chœur par les joueurs et le public. Écoutez cela.
Et on écoute maintenant Kimpembe, joueur du PSG. Véritable liesse populaire. Et alors, après la parade, les joueurs ont été accueillis par le chef de l'État Emmanuel Macron au palais de l'Élysée.
C'est exactement cela. Emmanuel Macron a accueilli les Parisiens dans un discours appelant d'abord au calme. Malheureusement, hier, la fête a été quelque peu gâchée par les violences commises par certains dans la nuit de samedi à dimanche. Mais il a également félicité les Parisiens alors qu'il est supporter de Marseille. Écoutez-le.
Ici, c'est Paris. 32 ans après l'Olympique de Marseille et ce Munich, hier à Munich, vous avez remporté cette Ligue des Champions et vous l'avez fait d'une manière sublime, monstrueuse.
Merci Mathieu Barranger pour votre chronique sur cette victoire historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Bien que la saison soit définitivement terminée et que les vacances approchent, les joueurs et le staff doivent maintenant préparer la Coupe du Monde des clubs. Prochain match le 15 juin, PSG Atlético de Madrid. Merci Mathieu.
Merci.
Et on va se quitter là-dessus jusqu'à 13h, l'hymne officiel du Paris Saint-Germain.